France Inter. Le masque et la plume. Une première émission consacrée au roman de la copieuse rentrée littéraire de janvier avec Les Belles Promesses, suite de la saga française de Pierre Lemaître. Nos héritages, fiction familiale de la Britannique Anna Hope, L'imparfait d'Éric Reinhardt dans la collection Ma nuit au musée, Protocole de Constance Debré en terres américaines et Ton cadavre exquis, premier roman de Marion Cantin. Pour en débattre, les critiques présents sont Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Jean-Marc Proust de Slate, Raphaël Léris du Monde et Nicolas Destienne-Dorve, auteur. Comme d'habitude, nous sommes en public au théâtre de l'Alliance française. Me reste à vous dire bonjour et bienvenue. Voici le masque. Après notre date de tournée à Poitiers, vous réagissez aux critiques à l'encontre du dernier roman de Michel Bussy, Les Ombres du Monde, fiction documentée sur le génocide rwandais. Je ne me remets pas de votre critique, écrit Dominique Benoît de Préau en Seine-Maritime. Bien sûr, ce roman a les défauts récurrents d'un Bussy, goût trop prononcé pour les rebondissements, style pas assez exceptionnel, mais je l'affirme, on peut le lire avec intérêt, et les intentions humanistes de son auteur sont incontestables. Le mail que Sylvie Dugard nous a adressé depuis L'Aile et Rose est un autre exemple des courriers qui vont dans ce sens. Non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais le suspense de ce livre m'a tenue en haleine, écrit-elle. Avis plus contrasté concernant « Quatre jours sans ma mère », premier roman de Ramsès Kefi, récit de la fugue d'une mère en Tunisie et de l'enquête menée par son fils, roman qui avait donc emballé la tribune. Après les louanges du masque, j'ai finalement été amèrement déçue, écrit Martin Bélanger depuis Sherbrooke au Québec. Trop d'invraisemblances et des personnages peu attachants. Vous, les critiques du masque, être vraiment surprenant, s'étonne Laurent Dominici de Bouvante. Je me suis dit, si le masque trouve ce roman épatant, c'est qu'il y a un loup quelque part. Eh bien non, j'avoue, vous avez raison, c'est drôle, rythmé, émouvant, plein de vie. Finalement, quand vous voulez, vous faites bien votre travail. Parti de Nouvelle-Zélande en voilier et en solitaire, j'accostais en Afrique du Sud au moment des 70 ans du masque, écrit Damien Job. Pendant mes longues traversées, ma femme et ma fille restent souvent à terre, en France. Savoir qu'elle vous écoute aussi fait du masque un fil qui nous relie. Bon anniversaire. J'ajoute, vive la radio, non ? On commence avec « L'imparfait » d'Éric Reinhardt, publié chez Stock dans la collection « Ma nuit au musée ». Cette nuit, Éric Reinhardt a choisi de la passer à Rome, précisément à la Galleria Borghese, aux côtés de l'hermaphrodite endormie, sculpture antique grandeur nature, étendue sur un lit de marbre. Éric Reinhardt a l'intention de passer la nuit allongé aux côtés de l'hermaphrodite, mais évidemment c'est interdit. Une agente de sécurité, qui surveillera l'auteur via l'œil d'une caméra, s'assurera qu'il respectera bien toutes les règles. D'un paragraphe à l'autre, on passe du récit de cette nuit à Rome, au récit mythologique, qui explique la naissance de cette figure de l'hermaphrodite, à un conte que l'auteur invente au fil des pages. On suit le destin parallèle de deux personnages au puits en velay, Gloria, chanteuse et personne intersexe, incarnation vivante de l'hermaphrodite, et Bruno, dentiste de son état, qu'Éric Reinhardt présente comme son double. Et jusqu'ici, le roman a reçu une presse quasi unanime. Est-ce que tu fais partie de l'enthousiasme général, Elisabeth ?
Absolument, je plaide coupable. Déjà, on ne peut qu'envier Éric Reinhardt d'avoir passé une nuit dans la somptueuse Galleria Borghese au milieu des statues, des sculptures du Bernin. Et pour pouvoir concurrencer quand même les sculptures du Bernin, il fallait quand même y aller. Et je trouve que son texte est lui aussi parfaitement sculpté. Éric Reinhardt, c'est un habitué des formes composites, des formes hybrides. Il aime mêler plusieurs histoires, les entremêler. Et là, c'est ce que tu as très bien résumé. Il y a à la fois le récit de cette nuit dans le musée, où en plus, pour une fois, Eric Reinhart fait preuve de pas mal d'autodérision, c'est-à-dire qu'à un moment, la soirée manque de capoter parce que la conservatrice du musée est persuadée qu'il est alcoolique parce qu'il demande un verre de vin, il veut absolument un verre de vin. Et il réclame, il demande, mais si on le cache dans les toilettes du musée, donc tout ça risque de tourner court, et puis finalement, il passe cette nuit au musée. Donc d'un côté, il y a ce récit-là, et puis de l'autre, il y a l'histoire donc, de Bruno, qui nourrit lui aussi un fantasme pour une autre sculpture de l'hermaphrodite, celle qui est au Louvre. Donc on a deux personnages qui ne désirent qu'une chose, c'est passer une nuit avec un hermaphrodite. Et finalement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce récit qui se dédouble, il se dédouble aussi au niveau du style, puisque pour l'histoire de Bruno et de Gloria, Reinhart emploie un style plutôt prosaïque, assez oral, très contemporain. Et pour le récit de la nuit au musée proprement dite, là, Reinhart fait preuve de toute l'aisance stylistique qui est la sienne. Et donc, il y a ces deux formes-là. Et puis, j'ai vraiment pensé à une forme d'escalier à double révolution, comme à Chambord. On avait vraiment l'impression d'un escalier qui spirale, dont les trames s'enlacent pour nous mener finalement à la assouvissement du désir, parce que c'est ça, finalement, ce livre, c'est l'histoire d'un double rendez-vous amoureux. Le rendez-vous promis à Eric Reinhart avec la statue antique et le rendez-vous qu'espère, que désire Bruno avec la chanteuse Gloria. Donc je trouve que, bon, bien sûr, on pense, enfin moi j'ai beaucoup pensé au roman Sarrasine de Balzac, qui est l'histoire d'un sculpteur tombé amoureux d'une jeune femme androgyne qui était en fait un castrat. Et puis finalement, ce que dit ce texte, c'est que être hermaphrodite ou pouvoir être à la fois homme et femme, c'est connaître la perfection de l'amour. Et
c'est pouvoir échapper
finalement à la violence des rapports amoureux entre les hommes et les femmes, qui parsème aussi le livre, puisque toutes les sculptures du Bernin, finalement, c'est des sculptures qui représentent des viols. Et là, le fait d'être dans un rapport complet d'égalité, ça annihile cette violence.
Alors, est-ce que pour toi, l'hermaphrodite est un idéal, Jean-Marc, entre la galerie à Borghese?
Je ne rentrerai pas dans ces considérations personnelles, ou en dehors de l'émission.
Et Chambord, tu t'es senti où, toi?
Je ne partage pas totalement cet enthousiasme. Pour moi, il y a trois récits là-dedans. Il y a les deux récits dont tu viens de parler, les petits déboires administratif et son obsession à pouvoir emmener deux verres de vin dans la galerie Borghese. J'ai trouvé que c'était un peu lourdingue, de la même manière que l'histoire d'amour entre Bruno et Gloria, je suis passé à côté, j'ai trouvé qu'elle était sans intérêt. En revanche, à mon avis, ce qui fait le sel de ce bouquin, c'est le moment où il commence à parler d'art. Déjà parce que la galerie Borghese, c'est quand même un endroit exceptionnel. Si vous n'y êtes pas allé, il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Et on ne peut y rester qu'une heure en réservant l'avance. C'est quand même, quand on est écrivain, on risque de se retrouver au Masque et la Plume, mais on peut aussi aller à la Galerie Borghese, ça compense. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette chance exceptionnelle qu'il a eue de passer une nuit dans la Galerie Borghese. Et quand il commence à parler des tableaux ou des sculptures, dans son parcours, il est éditeur d'art. Donc il sait de quoi il parle. Et il n'en parle pas en historien de l'art, avec des termes techniques un peu abscons, etc. Il en parle de manière extrêmement sensuelle. La manière dont il parle d'Apollon et Daphné, cette sculpture exceptionnelle, le moment où Daphné se change en laurier parce qu'Apollon la rejoint pour la violer, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais vu comme lui. Il dit, on la voit dans sa globalité, mais on peut avoir également 8 vues différentes en tournant autour de la statue et avoir une lecture virevoltante de cette image pour restituer le mouvement. J'avais jamais vu ça et je vais y retourner pour le voir. De la même manière, quand il parle de l'enlèvement de Proserpine, il passera...
On va pas pouvoir détailler toutes les sculptures.
Non, je vais pas tout détailler, mais ça, il faut le dire quand même. Il aborde ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire les doigts posés dans la cuisse, mais en même temps, il nous dit « Bernin a inventé le cinéma » parce qu'il y a cette lecture d'une action en plusieurs morceaux qui est regardée par le chien des enfers. Et une dernière chose, ce que j'ignorais, et c'est l'historien de l'art qui parle, il nous dit qu'il y a un hermaphrodite debout
qu'on au ne Louvre, peut pas voir, qui est planqué.
Parce qu'il y a un sexe en érection, il est dans les réserves.
Dans les réserves, oui.
Et il dit il faut faire comme pour l'origine du monde de Courbet, il faut le montrer derrière un placard pour les âmes sensibles, et s'il y a quelqu'un au Louvre qui nous écoute, je leur dis lisez le livre et répondez à cette demande d'Éric Reinhart.
Nicolas.
Alors moi, ce livre m'a exaspéré. D'abord, le côté très très parisien de l'écrivain, qui est avec son éditrice, qui connaît bien sûr le directeur de la Villa Médicis, qui n'a pas sa chambre, le pauvre. Est-ce que c'est du second degré? Je ne suis pas sûr.
Il en rit, mais franchement,
il y a un côté vraiment de l'entre-soi. Alors, cette belle France d'en haut qui vit dans des lieux merveilleux, et en parallèle, cette intrigue que j'ai trouvée totalement artificielle entre un dentiste du Puy-en-Velay et un hermaphrodite auvergnat, pourquoi pas, mais ça ne fonctionnait pas. Et le gros passage Wikipédia au milieu, avec où il nous explique explique plein de choses, mais Eric Reinhardt, ça je le sais, est un écrivain mélomane, je l'ai souvent vu au concert, c'est un des rares à y aller, et il aime la musique baroque, et en fait c'est comme un opéra baroque, c'est-à-dire qu'il y a un tunnel immense, et il y a 20 pages à la fin, pour moi qui sont magnifiques, qui est le moment où il finit par dormir avec la statue, et le moment où il y a cette scène de sexe absolument magnifique entre les deux personnages. C'est-à-dire, il faut se taper les 200 pages que j'ai trouvées, moi, prétentieuses, ça dandine du croupion, c'est très très précieux, ça m'a horripilé. Mais pour ces 20 pages, voilà, en fait, il faut oser aller jusqu'au bout. Et là, il y a quelque chose de miraculeux, comme un opéra baroque où on a en fait un tunnel de récitatif interminable comme chez Handel ou Lully, et tout à coup, un aria où on est touché par la grâce. Et il y a 20 pages magnifiques pour 200 pages de tunnel.
Donc, ça, l'intervention de Nicolas était un exemple de divulgachage, je crois.
Oh, divulgachage.
La parole est à Raphaël Léris.
Et je suis en partie comme Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie muséale est peut-être ce qui m'a le plus intéressée, c'est probablement la psychorigie dans moi qui parle, parce que cette très belle collection de Manu au musée est souvent un prétexte pour les écrivains pour parler d'eux, de ce qui leur est évoqué par les œuvres avec lesquelles ils dorment. Et finalement, on parle très peu elle-même des œuvres. Et donc là, lui, la manière dont transparaît son intimité avec ses œuvres, c'est absolument magnifique. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus requise dans ce texte. J'ai été sensible aussi, alors comme Elisabeth, mais donc de manière très différente de Nicolas, à l'humour d'Eric Reinhardt, qui est un auteur, peut-être parce que c'est un auteur qu'on lit depuis longtemps et que je sais ce goût de l'autodérision.
On sait qu'il est assuré à la Maïf. Ça, c'est un nécessaire.
Super. Il va s'acheter un costume smalto pour rentrer dans le personnage de fiction, il se trouve un peu plouc, il est persuadé d'être nul. Il y a quelque chose que je trouve très touchant dans cette manière de se mettre en scène, et effectivement il est un petit peu irritant et ça fait partie de son charme. C'est une nuit, donc voilà, on passe d'une rêverie à une forme de lucidité railleuse, et ça je trouve que ça fonctionne. L'histoire, la narration, j'en suis pas toujours convaincue, elle peut m'amuser quand il s'attaque à Bruno parce qu'il déteste les dentistes qui veulent leur régler leur compte, et à la fin il est finalement plutôt sympa avec la confrérie des dentistes. Je trouve qu'il y a une manière de vouloir démontrer qu'on n'est pas un hétéroplouc comme les autres, parce que si on rêverait d'être hermaphrodite qui est un petit peu affecté, mais dans l'ensemble ça me semble un texte vraiment intéressant.
L'imparfait d'Eric Reinhardt est publié chez Stock. On continue avec Protocole, nouveau roman de Constance Debray, tandis que l'un de ses livres précédents, Love Me Tender, vient d'être porté sur grand écran. Ce mot de protocole, au pluriel, renvoie notamment à l'enchaînement mécanique d'ordres et de gestes qui conduisent à l'exécution d'un condamné, selon la loi de plusieurs États américains. Dans un geste quasi documentaire, Constance Debray décrit et détaille, de façon quasi clinique, les différents procédés utilisés, les effets physiques sur le condamné, leur durée, jusqu'à la mort. La loi qui organise la mort organise le secret, écrit Constance Debray, les images sont interdites, et l'autrice met les mots, choisit les détails qu'on garde en tête une fois le livre refermé. Ses comptes rendus sont ponctués de récits à la première personne, où Constance Debray donne des fragments d'un séjour aux États-Unis, les rencontres de la narratrice, parfois sexuelles, les fêtes auxquelles elle assiste ou les conférences qu'elle donne dans des universités, autant d'autres protocoles. C'est aussi le portrait des États-Unis et d'une époque, la nôtre. Constance Debray écrit: tout est suspendu à la possibilité d'une catastrophe. Tout le monde sourit toujours. Nicolas.
J'attaque. D'ailleurs, tu as dit le mot États-Unis qui n'est jamais mentionné dans le texte, ce qui est intéressant. Alors, en fait, tu l'as dit, il y a deux livres. Il y a d'un côté le reportage absolument, je veux dire, fascinant, glaçant, terrifiant sur les différents protocoles d'exécution publique aux États-Unis. Et ça, j'ai lu ça, alors presque avec une fascination malsaine, parce que j'aime les choses terribles. Et c'est absolument fascinant. Mais ça aurait fait, je pense, la matière à un passionnant reportage, parce que en parallèle, les petites coucheries saphiques de la narratrice qui va se faire fouetter le cul après avoir mangé du pastrami, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est tellement...
Ça, alors, c'est une ligne. Hein.
C'est une ligne, voilà. Mais je veux dire, ça m'a pas... C'est-à-dire que je voulais retourner, ça c'est peut-être parce que j'étais attiré par ce côté très très terrible et négatif, je voulais uniquement retrouver les détails des protocoles, parce que toute sa petite promenade et la fin à Berlin, ça ne m'intéressait pas, je ne prenais pas, je restais extérieur au texte, et donc c'est comme s'il y avait eu deux livres, et pour moi, l'alchimie ne fonctionne pas entre les deux.
Ah bah c'est une erreur de lecture totale.
Ah bah Elisabeth. C'est totalement idiot, tu sais bien.
Je n'ai jamais dit ça, et jamais je ne me permettrai une chose pareille.
Mais j'adore, je veux qu'on m'insulte.
Oui, bon, on réglera ça en privé.
Miam.
Bref, il me déstabilise, c'est très fort.
Retrouve tes esprits,
non,
Elisabeth.
C'est pas deux livres, c'est tout ça fait corps, je veux dire.
Mais justement, moi j'ai pas vu le corps, j'ai vu les deux.
Voilà, parce que finalement, Constance Debré, presque plus qu'une romancière, c'est une moraliste. C'est une moraliste. Et ce qu'elle raconte, c'est pas du tout un reportage sur la peine de mort aux États-Unis, même si évidemment, elle retranscrit des textes de protocole pour les exécutions capitales. La première phrase du livre, elle est stupéfiante. C'est une phrase qui est extraite d'un de ses protocoles, c'est « Vous avez été condamné à mort ». Mais dans cette simple phrase, elle contient la substantifique moelle de la condition humaine. Ça dépasse l'Amérique, ça dépasse les États-Unis. On est tous condamnés à mort. Alors je sais de le dire comme ça, c'est pas extrêmement joyeux, surtout pour débuter l'année.
Bonne année.
Et tout ce qu'elle cherche à dire, Constance Debré, à mon sens, depuis ses premiers textes, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie en attendant ce terme? Comment on la remplit? Et on est tous à chercher comment dompter le chaos, comment l'organiser. Et pour ça, on se donne des lois, on se donne des protocoles. Donc tu l'as dit, il y a ce personnage qui dit « je », qui s'astreint chaque jour à nager 2,5 km très exactement. Mais tous, on a des marottes comme ça, une façon d'organiser sa vie, d'essayer de donner du sens à cette espèce d'absurdité dans laquelle on baigne constamment. Et c'est ça qu'elle essaye de nous dire. Et le fait qu'il y ait ce télescopage formel entre d'un côté des textes de protocole écrit dans une langue administrative extrêmement sèche, mais jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'abjection, puisque ça vient même réglementer le prix maximal du dernier repas du condamné à mort. Ça vient aussi préciser, par exemple, le niveau de voltage sur la chaise électrique pour éviter que le corps explose ou prenne feu tout de suite. Enfin, on est dans ce niveau-là de précision.
Autant de choses qui ont passionné Nicolas Deschênes.
Et les scènes de vie californienne sont racontées exactement avec la même langue dépourvue d'affect. Et pour moi, on est vraiment dans une espèce de rencontre complètement folle entre John Didion, qui était quand même la meilleure observatrice de l'Amérique, et Franz Kafka, qui est le grand écrivain de la loi. Donc pour moi, c'est un livre d'une densité remarquable. À un moment, le personnage fait référence à Wittgenstein, pardon d'employer tout de suite les grands mots.
Ça fait beaucoup de références.
Que le monde est la totalité des faits, et bien Constance Debré, en 140 pages, elle dit la totalité des faits.
Raphaël, même enthousiasme ?
Un tout petit peu tempéré. Pour moi, c'est un livre sur le divertissement pascalien. Enfin, c'est cette espèce de volonté d'échapper à la pensée de la mort, justement, et que, donc cette manière de rester dans la surface, puisque ce qu'elle raconte sur la vie californienne de la narratrice, c'est rester à la surface des choses, c'est essayer de ne pas contempler la mort qui nous attend. Et donc, face à ça, il y a la question de la peine de mort. Et puis, c'est aussi comment on vit quand on est dans un pays qui administre la mort en votre nom, puisque la peine de mort, c'est ça. C'est être en soi, en tant que citoyen, responsable de cette mort qui est administrée. Donc je trouve ça assez fort. Après, il y a dans la plume de Constance Debré une espèce d'ineffable gravité qui m'exaspère à l'occasion, pas sur la partie peine de mort, mais sur la partie « je vous montre à quel point vous êtes dans le divertissement pascalien ». Et moi aussi, une ineffable gravité, mais qui correspond un peu à tout ce qu'elle écrit depuis le début. Alors, il y a eu cette trilogie autobiographique, mais qui raconte, je crois, cette volonté de sortir de la surface, d'aller à la racine des choses, à la racine de ce qu'on serait. Mais il y a un côté épate bourgeois. En tant que petite bourgeoise, je suis épatée, et quand même, en tant que petite bourgeoise, je résiste à cette épate.
Jean-Marc.
Ouais, je rejoins plutôt ce qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire que pour moi il y a deux livres en un, et il y en a un qui écrase l'autre, c'est évidemment celui qui parle des peines capitales. Il me paraît important de parler des peines capitales comme elle le fait, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'en parler d'un point de vue plutôt moral, ou politique, ou judiciaire, ou administratif.
Et là c'est factuel.
Elle nous met factuellement dans ce qui se passe.
Je ne crois pas qu'il y ait de livres sur ce sujet-là, à ce point précis.
Alors, il y en a un, et je pense c'est ça qui m'a gêné, c'est Martin Monestier qui en 1994 avait publié aux éditions du Cherche Midi un livre qui s'appelait « Peine de mort » et qui racontait comme elle le fait, par le menu, ce qui se passe pour un condamné quand il est guillotiné, quand il est scié, quand il est électrocuté, quand il subit une injection létale. Et je pense que c'est important que ce type de livre existe parce qu'il nous montre ce que vivent les condamnés à mort, ce qu'ils subissent, qui est juste épouvantable. Une peine de mort, c'est une torture, elle nous le dit. C'est pas un truc qu'on dit, ben voilà, l'injection létale, c'est indolore, c'est civilisé. Non, l'injection létale, c'est des gens qui essayent de piquer quelqu'un et qui n'y arrivent pas et qui s'y reprennent et la personne peut s'évanouir, on reprend. Elle nous dit que 30% des exécutions capitales échouent, on recommence, donc c'est systématiquement une torture. Et dans le monde où on vit, où on entend de temps en temps, oui, la peine de mort dans certains cas, non, il n'y a pas dans certains cas, je pense qu'il faut des livres abolitionnistes comme elle le fait, de manière précise, pour qu'on mesure ce que les gens vivent. Et c'est vrai qu'à côté, quand elle nous parle de ses soirées, du chien, du chihuahua...
Oui, mais encore une fois, c'est pas un essai sur la peine de mort. Je crois que là, c'est vraiment faire fausse route que de le lire de cette manière-là.
Moi, je le lis comme ça. C'est-à-dire que le reste du texte me paraît totalement insignifiant. je suis peut-être passé à côté.
C'est tellement fort, tellement grave, tellement violent et tellement pénible à lire que voilà, le reste paraît un peu fade.
Voilà, le nom du chihuahua de sa voisine, qui s'appelle Coco Chanel, je m'en fiche totalement quand j'ai lu auparavant ce qui se passait pendant une électrocution. Pour moi, il n'y a pas d'égalité entre ces deux textes et ces deux textes qui auraient dû être séparés.
Mais l'égalité, c'est dans la condition qui nous relie tous. Elle est là, l'égalité. Je crois que c'est ça qui est au cœur du livre.
Oui, on est tous condamnés à mort à la naissance, mais on n'est pas tous condamnés à mort de la même façon, la façon que vivent les vrais condamnés à mort dans une salle d'exécution.
Protocole de Constance Debré est publié chez Flammarion. On enchaîne avec Les Belles Promesses, quatrième volet de la saga feuilletonesque que Pierre Lemaître consacre à la France des Trente Glorieuses. Nous sommes donc dans les années 50 et 60 et l'on retrouve la famille Pelletier. Vous la retrouvez, vous faites connaissance avec elle d'ailleurs, parce qu'on peut très bien entrer dans ce roman sans avoir lu les précédents. Lemaître a l'art de repréciser chacun de ses personnages grâce à des scènes de repas ou de cérémonies. Par exemple, il resitue le personnage de Geneviève avec cette phrase « Ce que Geneviève put faire chier le monde, c'est à peine croyable. » La fameuse Geneviève est l'épouse de Jean, fils aîné de la famille Pelletier, devenu héros national pour avoir sauvé un bébé des flammes d'un immeuble parisien. Malgré ce nouveau statut de héros, son frère François enquête sur le passé sombre de Jean. Parallèlement à cette histoire familiale à Paris, marquée par la percée du périph, on suit celle d'une famille d'émigrés espagnols dans une campagne française en plein remembrement. Pierre Lemaître a commencé ce tableau de la France du XXe siècle il y a 13 ans avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Jean-Marc ?
C'est un bon petit roman. C'est peut-être pas son meilleur, je trouve, qu'il tire un petit peu sur la corde. On voit beaucoup les ficelles. Ça se lit sans déplaisir. On tourne la page assez facilement, c'est une saga familiale. Le style laisse parfois un petit peu à désirer. J'ai trouvé que ça méritait peut-être une relecture de l'éditeur. Il y a quelques facilités, un peu de langage parlé, non pas dans les dialogues des personnages, mais dans ce qui les entoure. Il y a beaucoup d'invraisemblances. Je sais qu'il y a des personnes autour de la table qui aiment beaucoup les chats, mais la façon dont Geneviève essaye en permanence de se débarrasser du chat... C'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe ses journées avec lui pendant des mois ou des années... Et pour s'en débarrasser, elle invente stratagème sur stratagème qui est sous tous, alors qu'il suffisait de le jeter par la fenêtre.
Oh, Jean-Marc.
Non, mais si elle voulait vraiment s'en débarrasser, ce n'est pas mon opinion personnelle. J'essaye de me mettre à la place du personnage et de produire quelque chose d'un petit peu.
Tu es trop bon pour être Geneviève.
Cette Geneviève, je trouve qu'elle est intéressante. C'est un peu la Madame Verdurin des Trente Glorieuses. C'est-à-dire qu'elle est d'une vulgarité inculte formidable, que je vais résumer d'une phrase qu'on trouve dans le texte. Sa fille fait du latin, elle en est très fière. Et donc, pour l'exprimer, elle dit, elle traduit Homer comme qui rigole. Voilà. Donc on est vraiment dans la culture et la vulgarité.
Quand j'entends... Pour ce qui concerne ce personnage, voilà. Fascinant en tout cas.
Alors on compare parfois Pierre Lemaître à Alexandre Dumas en disant c'est l'Alexandre Dumas du XXIe siècle. Moi je le rapprocherais plutôt des feuilletonistes de la fin du XIXe qui s'intéressent comme il le fait au monde de l'entreprise, au monde de l'industrie. En l'occurrence, ce magasin de lingerie cheap, la construction du périphérique. C'est des sujets économiques. J'ai pensé donc à pas mal de romans feuilletons du 19e siècle parce qu'il y avait ces rapports sociaux, ces rapports de classe qu'il montre très bien. Et surtout, il a répondu à un vœu que j'ai formulé ici il y a quelques semaines. Quand on parlait du livre d'Anne Berest, Finistère, j'avais dit qu'elle était passée à côté d'un bon roman qui aurait été la création de la première coopérative agricole par son arrière-grand-père.
Oui, j'ai pensé à toi, oui.
Mais t'as bien fait de penser à moi. Oui. J'étais ravi. Pierre Lemaître a répondu à mon vœu puisqu'on a la création d'une production agricole alternative au début des années 60, qui est fort bien racontée. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'au début des années 60, déjà, donc il y a plus d'un demi-siècle, le modèle agricole productiviste qui est le nôtre, qui est porté par la FNSEA, était déjà contesté. Et rien que pour ça, ce livre méritait d'être publié.
Nicolas.
Alors j'avoue, c'est mon premier Lemaître, j'en avais jamais lu, et je dois dire que voilà, il y a une maîtrise technique, une maîtrise de la narration. Il vient de l'école du polar et on sait construire une intrigue. Alors avec peut-être des invraisemblances et mais c'est remarquablement fagoté. Et voilà, et je me suis dit quand même, il faut que je lise les trois précédents, ce que je n'ai pas fait. Mais je suis resté un peu sur ma faim, c'est-à-dire que il dédie son livre quand même. Bon, il a une certaine idée de lui-même, je crois, Pierre Lemaître, à Alexandre Dumas et Victor Hugo, tout simplement. Et de Dumas...
Ses potes.
Non, mais il le fait toujours. Dans chacun de ses livres, il paye ses dettes aux auteurs.
Oui, alors de Dumas, enfin, il n'a pas l'espèce de...
Bisous, bisous, quoi. plutôt que de payer ses dettes, il leur envoie un gros bisou.
Il leur envoie un gros,
il envoie un grand bisou. Et alors,
il paye ses dettes aux historiens avec lesquels il travaille.
Oui. Alors, il a pas l'espèce de désinvolture, la légèreté de Dumas, et il n'y a pas, je trouve, l'empathie, la générosité d'Hugo. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un peu cucéré. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ample. En fait, c'est plus, ça ressemble aux grandes familles de Maurice Druon. Il y a un côté les grandes sagas, un peu de la moitié du XXe siècle. On pense aux films de Jean-Paul Le Chanois, de Gilles Granger. C'est un côté qualité France, mais ça. Et puis il est meilleur dans les personnages qu'il n'aime pas. Le personnage de Geneviève est merveilleux,
ben oui,
mais on a l'impression qu'on est dans un film de Chabrol. Il y a vraiment une haine du riche, une haine du bourgeois, qui est ce qu'il y a de plus excitant dans le texte.
Elisabeth.
Oui, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que je ne sais plus si tu l'as dit, Rebecca, mais ce livre, c'est vraiment le dénouement en fait de la tétralogie. Donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'il a semé tellement d'intrigues dans les volumes précédents que là, il arrive dans ce moment un peu délicat. Donc ce qui explique peut-être que ce volume-là soit un tout petit peu en deçà des précédents. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs, quelques répétitions. Il est beaucoup question, notamment, de l'obsession sexuelle que nourrit Philippe, le fils de cette bonne Geneviève, pour sa tante Thérèse. Donc ça, c'est des scènes qui sont répétées à plusieurs reprises. Je crois qu'au bout d'un moment, on a compris que Thérèse avait de très belles fesses. Pour autant, là, avec ce dernier volume, Pierre Lemaitre, il renoue vraiment avec le polar, parce que ce qui est au cœur de cette histoire-là, c'est est-ce que François va enfin découvrir, François, un des personnages, va enfin découvrir la vérité sur son frère Jean, surnommé Bouboule, dont on sait depuis les volumes précédents...
Mais ne le dis pas, parce qu'au cas où... Dont on sait qu'il a un passé plus que trouble.
Les volumes précédents.
Donc, Bouboule les critiques du masque, normalement, si. Là, tu viens de te trahir.
Bouboule fait des choses assez laides, assez vilaines, et donc François mène l'enquête. Et quand même s'il y a ces quelques petites faiblesses, on retrouve, moi je trouve, ces personnages, donc tu l'as dit, on a parlé de Geneviève, mais il y a aussi ce bon chat Joseph que tu as évoqué, Jean-Marc, et puis malgré tout ce souffle épique, la scène du sauvetage du petit bébé Michel dans l'incendie au milieu des corps qui sont en train de brûler, des cris, des agonisants, moi ça m'a rappelé le sauvetage de Marius par Jean Valjean dans les égouts, dans Les Misérables, bon, peut-être un petit peu moins, en plus le petit bébé Michel, ses grands-parents vivent à Auxerre, ce qui m'a évidemment un petit peu
ouais, entre le chat Joseph et Auxerre, voilà.
Oui, bah ça y est, j'étais
confuse. C'était un livre pour toi.
Mon point de vue est complètement biaisé. Et comme l'a très bien souligné Jean-Marc, il y a toujours une dimension sociale, historique dans les livres de Pierre Lemaitre. Et là, c'est effectivement la construction du périph. Il y a aussi la guerre d'Algérie qui est quand même présente dans ce texte avec l'irruption de ce personnage de Manuel.
De manière extrêmement brève tout de même.
Oui,
regarde l'importance qu'elle a.
Absolument, mais ça fait quand même un dégagement et ça permet quand même d'englober toute cette période. Donc, malgré ces petites faiblesses, moi, je trouve qu'il faut lire ce texte qui vient parachever la tétralogie.
Raphaël,
alors,
terminé.
Je tiens pas particulièrement à mon originalité, donc je vais rendre grâce à son talent hyper madré, cette maîtrise, ce savoir-faire, cette jubilation qui, à certains moments, ressemble à une forme de contentement de soi, mais on connaît des gens beaucoup moins doués qui sont encore plus contents d'eux, donc il a le droit d'être content de lui. En revanche, je vais me permettre de faire quelque chose qui n'est pas du tout mon genre, c'est que je vais te contredire, Rebecca, parce que dire que, oui, bien sûr qu'on peut lire ce texte sans avoir lu les précédents.
Oui.
On comprend, et le talent de Pierre Lemaitre consiste à remettre les éléments pour les lecteurs.
Mais des fois, tu as été perdu.
Pour les situer. Non, c'est pas une histoire d'être perdu. Alors, donc, c'est très mal, j'avoue, ma faute. Je n'ai pas lu les trois tomes précédents, et donc, je n'ai aucune espèce de rapport affectif à quoi que ce soit dans ce roman. Donc, je peux admirer d'un point de vue technique, je trouve que ça fonctionne bien. Je ris à des tournures amusantes. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant, mais je n'ai aucune espèce d'enjeu affectif. Maintenant, il écrit une saga, c'est son quatrième tome, il a fait son travail, mais c'est juste pour dire au lecteur que peut-être c'est pas une bonne idée de commencer par le quatrième.
Oui, absolument.
Les Belles Promesses de Pierre Lemaitre est publiée chez Calman Levy. Une autre histoire de famille, mais dans le Sussex, en Angleterre cette fois, grâce au roman de la Britannique Anna Hope, remarqué dès son premier livre, Le Chagrin des Vivants, publié il y a 9 ans. Ce roman-ci s'intitule Nos Héritages et il s'ouvre avec une carte, celle de la propriété de la famille Brooke, qui comptait un manoir du XVIIIe siècle avec des centaines d'hectares de nature autour. Philippe Brooke, le père et propriétaire, vient de mourir. Sa fille aînée, Franny, est la seule des trois enfants à hériter du domaine, et tandis que son frère fantasme d'installer un centre de soins haut de gamme, Franny, très engagée, veut mettre en place un projet écologique. De bien bonnes intentions pour la planète, ébranlée par les révélations liées à l'histoire du domaine. Le roman se déroule pendant les 5 jours qui entourent les obsèques de Philippe, 5 jours qui réunissent
trois générations qui mettent au jour des conflits, d'anciens amours et des secrets liés au passé colonial de l'Angleterre. Elisabeth ?
C'est une excellente série.
D'ailleurs, elle est déjà...
C'est déjà en cours d'adaptation.
C'est déjà en cours d'adaptation.
Ah bah oui, y a rien à faire, il n'y a rien à réécrire. Hein, tout est là, clé en main. Non, on sent qu'elle a voulu écrire une version contemporaine de Middlemarch. D'ailleurs, la famille s'appelle Les Brooks et c'est aussi le nom de la famille au sein du roman de George Eliot. Mais on est quand même beaucoup plus du côté de Succession, avec des personnages extrêmement bien campés, extrêmement bien caractérisés. Donc, on a l'héritière, la battante, on a la sœur passionnée, éternelle amoureuse, etc. Et un arc narratif absolument au cordon. Hein, c'est les conflits, la résolution du conflit, voilà, le personnage qui fait irruption, un peu trouble-fête, en l'occurrence trouble enterrement. Bon, finalement, c'est vraiment très très net, il n'y a rien qui dépasse, on est plutôt dans un jardin à la française que dans un jardin à l'anglaise, hein, c'est pas touffu, enfin si, c'est très touffu, mais c'est très 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 bien construit, on sent
ça
vraiment...
Ça ressemble à un tableau Excel.
Non, mais on ressent la fabrication des ateliers de création littéraire, donc ça va donner une très bonne série, ça c'est sûr, tout ça pour nous dire, en plus, toutes les intentions sont extrêmement lisibles, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'on hérite pas seulement d'un domaine, de quoi on hérite quand on perd quelqu'un, c'est qu'on hérite aussi des crimes de sa famille, etc. Et contrairement à ce que chantait Nana Mouskouri, on ne reçoit pas toujours l'amour en héritage, sauf que Nana Mouskouri, elle le dit en une chanson, et là, il faut 400 pages pour en arriver à cette conclusion.
Je sens que tu as aimé, vu ta remarque, Jean-Marc, aussi.
Non, mais j'ai plutôt bien aimé ce livre, mais c'est vrai que la construction est tellement... ficelé, enfin c'est tellement visible, 5 journées, une dizaine de personnages qui vont avoir des dialogues à 2, à 3, etc. Enfin, on a l'impression qu'elle l'a construit avec un tableau Excel pour que chacun ait son temps de parole. Donc c'est parfaitement construit, mais c'est quand même un peu trop visible. Les personnages, au bout d'un moment, deviennent un petit peu stéréotypés parce qu'on sait qu'on va avoir des révélations sur leur passé, des amours qui ne sont pas allés jusqu'au bout, etc. Enfin, tout est quand même assez prévisible. On sait qu'aux 2/3 du roman, il va y avoir un petit mouvement qui va rompre l'équilibre. C'est vrai qu'elle le fait de manière historique, de manière assez maligne, avec cette question du colonialisme qui s'insère dans quelque chose, un ordre établi auquel on pensait pas du tout. Et on a une famille aristocratique anglaise qui s'ingénie à restaurer la biodiversité. Et ce qu'elle nous dit, c'est que cette œuvre de bienfaisance, en quelque sorte, c'est du greenwashing. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on va mettre...
En français dans le texte.
Du tapis vert, en l'occurrence. Et je pense que c'est assez malin, parce qu'elle insère ce mouvement de rupture dans le texte, dans une question politique très actuelle. Mais ça reste quand même un roman, tu dis une série, etc., pour moi, qui est vraiment très bien calibré, mais qui manque un peu...
Il se lit sans déplaisir, hein, mais c'est vraiment...
Adapté en série et pour la scène aussi, au théâtre. Ah. Raphaël ?
Sans déplaisir, alors je dis aussi sans déplaisir. C'est-à-dire que je n'ai pas boudé mon plaisir au coin du feu.
D'accord.
Tout ça, je sais où ça va à peu près, je vois les influences, tout ça est assez cousu de fil blanc. Et cependant, il y a quand même un plaisir dans la dramédie familiale, les enjeux entre les frères et sœurs, le frère qui est un éternel petit con d'école de commerce, qui voudrait récupérer une partie du domaine pour permettre aux super riches de mieux se sentir, puisque c'est comme ça que la planète
ira mieux. Grâce à des champignons hallucinogènes.
Je trouve ça assez drôle. Les échanges entre les frères et sœurs sont amusants. Bon, alors, tout ça est très programmatique, et la question politique arrive d'une manière un peu lourdaude. Et en même temps, je trouve que c'est à la fois intéressant et un peu démonstratif, et cependant la manière dont le personnage de Franny, qui est donc la sœur qui hérite du domaine, celle qui veut le réensauvager, qui pense qu'elle fait les choses bien et qui va découvrir qu'elle a des angles morts, ça je trouve que c'est intéressant du point de vue de la dramaturgie du personnage. Après, on va dans un happy ending d'une fin heureuse qui n'a aucun sens et qui n'a pas de rythme.
Trop de champignons hallucinogènes.
Voilà, trop de champignons hallucinogènes. Il y a une espèce d'accélération pour que tout ça se termine bien avant la fin du 5e jour, qui est un peu dommage. Néanmoins, vraiment, en termes de plaisir, il y en a.
En termes de plaisir, il y en a.
Tu l'as... Ça se laisse lire. C'est efficace.
Nicolas.
C'est efficace, mais assez laborieux. C'est quand même très, très long. En fait, c'est une bonne dialoguiste. Les scènes du dialogue sont très bien, mais quand elle nous décrit la forêt, elle nous cite tous les arbres. Quand elle nous décrit les oiseaux, on a toute une volière. Enfin, ça aurait pu Olivier Messiaen, mais sinon, il y a quelque chose d'assez scolaire. On sent qu'effectivement, elle a bossé. Ça coche toutes les cases. Il y a chaque personnage. Et les chapitres valent ce que valent les personnages. Il y a des personnages plus attachants que d'autres. Et alors, la résolution qu'on apprend à la fin sur le
que tu ne dévoiles pas,
je ne dévoilerai pas, mais on voit ça arriver à des kilomètres, 100 pages avant, on dit oui, ça va être ça. Eh ben oui, c'est ça. Donc on m'avait annoncé que c'était le croisement de Downton Abbey et de Succession. Ça n'a pas le charme de Downton Abbey et ça n'a pas l'efficacité glaciale et sanglante de Succession.
Nos héritages d'Anna Hope est édité par Gallimard dans une traduction de Marguerite Capelle. On termine avec Ton cadavre exquis, premier roman d'une jeune autrice qui s'appelle Marion Quentin. Le titre est à prendre au propre comme au figuré. Il est bel et bien question d'un cadavre, celui du père de la narratrice. Oui, nous terminons dans la joie et la gaieté. Elle est thanatopractrice et elle a réussi à convaincre sa famille d'embaumer son propre père. Au fil des soins qu'elle lui porte, surgissent des éclats de leur passé commun, son enfance à elle, aux côtés de ce père alcoolique, des souvenirs de bonheur, de honte et de violence. Il s'agit aussi d'un cadavre exquis dans l'écriture, puisque les gestes de la narratrice font naître des souvenirs, ou inversement. C'est donc un huis clos, dans une salle de soins, le temps d'une heure, entre un père et sa fille, qui s'adresse à lui et écrit « Prendre soin des morts est une manière de faire la paix avec soi-même ». Et une bonne année, Raphaël Derry.
Alors d'une part, je suis opposée au fait de dire des méchancetés sur des premiers romans qui sont, et plus probablement encore quand la matière est aussi douloureuse.
Ce prologue me fait frémir.
D'autre part, nous sommes en période de bonnes résolutions et j'ai décidé de suivre cette doctrine de feu ma grand-mère qui était « si tu n'as rien d'aimable à dire, tais-toi ».
D'accord.
Alors, c'est une chose que je vais sans doute pas tenir très longtemps. Néanmoins, donc, je vais dire ce que j'ai d'aimable à dire sur ce texte, c'est-à-dire que la partie sur la thanatopraxie m'a beaucoup intéressée. Ce qu'on apprend sur les orifices à boucher, les gaz à drainer, les canules.
Alors, le terme bien pudique, exact, contrairement à l'autrice.
Voilà, le terme exact est mécher l'anus.
Mécher l'anus.
Des mèches de coton. Voilà. Éviter l'évacuation des liquides. Et là, j'ai cherché longtemps.
Merci, disant, merci beaucoup de cette précision, Jean-Marc Proust.
Bah, merci c'est pour la programmation, Rebecca.
Oui, oui, oui.
Je me suis dit, il y a peut-être une contrepétrie. Mais en fait, je n'ai pas trouvé. Je pense que la contrepétrie.
Pour ma part, j'ai trouvé ce roman insolent. Donc,
voilà. Donc, tout ça, les bruits que font les cadavres, les réflexes du corps, tout ça m'a vraiment beaucoup intéressée.
Le cadavre qui rit.
Le cadavre qui rit, c'est incroyable. Voilà. Bon, après, la manière dont elle insiste sur le parallèle entre cette activité. La littérature, ça m'a moins emballée, mais ça veut dire que je suis en train de déroger à la règle
attention,
de grand-maman.
Mamie revient.
Et donc, je vous laisse la parole, camarade.
C'est à Nicolas d'Estiendorf.
Oh, j'ai trouvé globalement, c'est ni fait ni à faire. J'aime aussi l'idée, en fait, pour le coup, différemment du livre de Constance Debré, mais il y a une double narration. Toute la partie thanatopraxie, je ne sais pas comment on dit, et passionnante parce que c'est des choses qu'on ne voit jamais, à part dans Six Feet Under, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé en littérature ou au cinéma, et donc moi j'ai lu ça avec intérêt, parce que ça c'est mon côté un peu monestier justement, j'aime le bizarre, mais alors le parallèle avec l'histoire du père, le côté requiem pour un gros dégueulasse, bon là je trouve ça totalement artificiel, j'y crois pas, je trouve que l'idée de départ, l'idée d'une femme qui détestait son père et qui l'embaume, c'est passionnant, mais ça reste une bonne idée.
Jean-Marc.
Bah, disons qu'il y a effectivement deux livres en un. Le livre qui est vraiment intéressant, c'est la partie thanatopraxie, parce que c'est la littérature qui nous donne à découvrir un métier. La toilette mortuaire avant la restitution à la famille, c'est quelque chose de rarissime. Et elle le raconte de manière très précise. On assiste à tout. À côté de ça, il y a un côté extrêmement lourdingue quand même, qui est dans la démonstration de... Je suis en train de faire la toilette mortuaire de mon père et donc...
Je lui règle son compte.
À chaque fois que je fais un geste, c'est un geste où pour régler son compte. Alors, je vais recoudre.
Mais je finis par l'embellir.
Je vais enlever ce qui sent mauvais. Je vais faire du maquillage. Je vais essayer de faire en sorte que la toilette me réconcilie avec mon père. Et elle le dit de manière un peu trop appuyée. Alors, il y a des jeux de mots lourdingues. Mmh. Je veux faire de nous un passé simple. Il y a de la métaphore.
Damien XVI, voilà, c'est en fait. Adolescent en folie.
Voilà. C'était mon héros, je suis héroïnomane.
Oui,
oh là là, au secours.
Ça, mais, on est d'accord.
Pardon.
Elle donne quand même à voir ce métier qui est difficile. Qui est
et qui nous concernera tous un jour.
Je ne suis pas sûr d'exercer ce métier. Peut-être être
voilà,
exercé
oui.
Moi-même. Mais c'est des personnes qui manipulent des produits.
On va te mécher l'anus.
Tranchant, qui risquent d'être.
Nicolas,
c'est bonne année.
Ça suffit.
C'est
dit.
Ça arrivera. Et qui exerce en chambre froide,
bon
comme
sang.
Ce soir.
Elisabeth, rendons grâce.
Oui, absolument. Non, moi
charitable.
J'ai d'abord été séduite, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a quand même une écriture assez métallique, on ressent vraiment le côté glacé de la chambre froide dans laquelle tout cela se passe. Il y a aussi cette
transgression, mais finalement le dispositif, cette transgression initiale donc, qui consiste pour cette jeune femme à embaumer elle-même son père, mais ce dispositif-là, cette idée-là, c'est à la fois la force et la faiblesse du livre, parce qu'après il y a une surenchère, justement on sent qu'il y a une forme de délectation à parler de vomi, de matière fécale, etc. Il y a beaucoup d'explosions de varices œsophagiennes. J'ai même pas voulu chercher sur Google à quoi ça ressemblait, parce que j'avais eu trop peur de tomber sur une image absolument immonde.
Moi j'ai passé mon temps à chercher des images.
Mais c'est fou.
Parce que je suis un journaliste consciencieux.
Oui, j'ai failli le dire.
C'est la liberté du masque.
Ou un grand masochiste, je ne sais pas. Donc voilà, il y a quand même quelque chose, il y a une voix, mais c'est vrai que là, il y a une forme de complaisance qui, à un moment, désamorce finalement toute forme de subversion et l'amoindrit un petit peu.
Ton cadavre exquis de Marion Quentin est édité chez POL. Et c'est l'heure de vos coups de cœur. On commence avec toi, Jean-Marc.
Alors moi, je voudrais vous emmener en Croatie au début du 19e siècle, sous l'empire des Habsbourg. Je pense que c'est géographiquement, historiquement, un endroit où la littérature est un peu une zone creuse, en tout cas pour moi. J'ai découvert La sorcière à la jambe d'os, je vais essayer de bien le prononcer, de Jelimir Periš, aux éditions du Sonneur, une traduction de Chloé Billon. Et donc c'est une sorcière qui se débat face à des tortionnaires divers. Et elle a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un personnage d'une force intellectuelle incroyable. C'est l'esprit des Lumières face à l'obscurantisme et à la superstition. Elle passe son temps à renvoyer les religieux dans ses cordes. Il y a 52 chapitres, il n'y a pas un seul chapitre qui est semblable aux autres. C'est-à-dire que vous avez un chapitre qui va être écrit sous forme théâtrale, un autre sous une forme poétique. Il y a un chapitre qui est écrit du point de vue d'un bras. C'est le bras qui parle. Il y a de l'administration.
C'est pareil, ça ne va pas être possible de tout énumérer, d'énumérer tous les chapitres.
Non, je termine Jean-Marc. Mais je suis enthousiaste, ce qui est assez rare chez
oui,
moi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Je voudrais en profiter.
Nous en prenons
un
la mesure.
Chapitre 23, qui est donné trois fois. Il y a trois versions du chapitre 23, et à chaque version, il y a une explication supplémentaire. J'ai trouvé ça formidable. C'était ma découverte de la littérature croate.
La sorcière à la jambe d'os, et je te laisse redonner le nom de l'auteur.
Jelimir Periš. J'ai vérifié avant.
Aux éditions du Sonneur. Nicolas.
Alors, quelque chose de très joli pour commencer l'année, qui est le livre de Gauthier Battistella chez Grasset, qui s'appelle Bocuse, qui est une biographie romancée, mais en fait très précise, de Paul Bocuse. Et c'est un livre gourmand. C'est un livre qui donne envie de passer à table. C'est un livre avec de la poularde, avec du saucisson, avec du tablier de sapeur, tout ce qu'adore Jean-Marc. Et c'est une biographie, en fait, très, très, disons, sensible et sincère, parce que Gauthier Battistella a été critique au Guide Michelin pendant 15 ans. Il écrit sur la gastronomie et il écrit ça d'une manière généreuse, d'une manière gourmande. Il nous fait partager et c'est un livre qui est sur un certain art de vie français, sur un certain esprit français et qui est un vrai petit bijou de gourmandise et de littérature.
À la fin de ce mois de janvier devait se tenir la 53e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, l'un des festivals de bande dessinée francophone les plus importants au monde. Pourtant, la bande dessinée continue d'irriguer le cinéma, la littérature, notre univers visuel quotidien, et la bande dessinée continue de produire des récits passionnants, dont le livre dont je vais vous parler, qui s'intitule « Solideo Gloria », une fresque de 300 pages, où il est justement question de ce que l'art peut changer dans une vie. C'est l'histoire de faux jumeaux, nés dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, et leur maîtrise du chant et de la composition va les sauver. C'est un conte, un récit initiatique, où l'on croise Vivaldi ou Jean-Sébastien Bach, le dessin est en noir et blanc, on pense à Rembrandt, au manga, à Stanley Kubrick. Les dessins, justement, sont signés Édouard Court, et le scénario, à la fois rigoureux et fantasque, est écrit par Jean-Christophe Devenet, et cette année, ces deux garçons sont les heureux lauréats du prix BD Fnac France Inter, et nous en sommes fiers. Solideo Gloria d'Édouard Court et Jean-Christophe Devenet est publié chez Dupuis. Elisabeth.
Ben moi aussi, je vais vous parler d'une bande dessinée et d'un livre de poche, deux ouvrages qui permettent de découvrir ou de redécouvrir l'une des figures certainement les plus fascinantes de l'entre-deux-guerres. Je veux parler de l'écrivaine et journaliste suisse Anne-Marie Schwarzenbach. La BD, elle s'intitule Anne-Marie Schwarzenbach, l'ange dévasté. Elle est signée Mamo Stedin et Léa Gauthier. Et elle se concentre surtout sur la période de la montée du nazisme. Et donc, on voit cette jeune femme qui était très proche des enfants de Thomas Mann, Erika et Klaus Mann, totalement dévastée face à la montée du fascisme et complètement démunie en tant qu'intellectuelle. Et c'est quelqu'un, on la voit écumer les cabarets berlinois, se droguer beaucoup, aimer des femmes et partir à travers le monde, notamment avec Ella Maillard, en Iran, en Afghanistan, et malheureusement mourir très jeune. Et il y a également une réédition, enfin l'édition, pardon, la parution d'un inédit en poche qui s'intitule Paris. Ce sont des écrits de jeunesse d'Anne-Marie Schwarzenbach, et on trouve aussi dans son écriture l'androgynie de son allure. C'est absolument stupéfiant. Donc si vous ne connaissez pas Anne-Marie Schwarzenbach ou si vous aimez Anne-Marie Schwarzenbach, voilà, vous avez deux livres pour vous replonger dans sa courte vie.
On termine avec toi, Raphaël.
Oui, je voudrais vous parler de La Faille de Blandine Rinkel, qui reparaît en poche au livre de poche, parce que Blandine faisait partie de notre petite troupe l'année dernière. Il n'était pas question de parler de ce livre, qui était un de ceux que j'ai préféré en 2025, de ceux qui m'ont le plus marqué. Mais pour ceux des auditeurs qui aimaient son intelligence laser et sa sensibilité remarquable, eh ben, on retrouve tout ça dans La Faille. Alors La Faille, c'est un récit d'une merveilleuse liberté sur la famille et sur la manière dont certains se calcifient dans cette structure, et de manière générale dans les structures clanique, ça peut être les amitiés, ça peut être les groupes politiques. C'est un livre qui passe par des récits, mais également beaucoup par un dialogue avec des livres, des films aimés, pour réfléchir à ce que ça nous fait, la famille. Et c'est par ailleurs, non seulement c'est un livre merveilleux, mais il se termine par une liste de 50 livres à habiter, qui est une liste épatante de textes avec lesquels vraiment vous allez passer des mois et des mois de joie. C'est pour le prix de ce livre-là, vous avez une liste de lecture merveilleuse.
Pardon, je crois que je n'ai pas donné la maison d'édition des deux livres que j'ai cités.
D'accord, vas-y.
C'est chez Payot.
Chez Payot, et La Faille de Blandine Rinkel dont tu viens de parler, Raphaël,
est au livre de poche.
Est au livre de poche. Raphaël Léris, Nicolas Destiendorf, Elisabeth Philippe, Jean-Marc Proust, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu le jeudi 22 janvier au Théâtre de l'Alliance Française. Nous débattrons de l'actualité du cinéma et de la scène. Guillaume Giraud et Anaïs Reynard ont réalisé Le Masque et la Plume, coprogrammé avec Ilinka Negulesco et préparé avec l'aide de Zora Desgouttes. Pour la prise de son aujourd'hui, il y avait Marie Le Peintre, Nadège Antonini et Alex Olarewaju Otinois. Ma bande et moi vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour d'autres enthousiasmes ou désaccords, avec une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.